Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. Startup Mafia, c'est un format long. Une saison est consacrée à une scale-up et un épisode est consacré à un talent. L'objectif, comprendre l'envers du décor avec un prisme talent, car c'est eux qui contribuent, avec les fondateurs, à faire grandir le business de manière si rapide. Excellente écoute à tous. C'est parti Grichard. Bon, je suis ravi de passer du temps avec toi parce que j'ai pas eu beaucoup de profils tech jusqu'à aujourd'hui. Je crois que sur les trois saisons, Swile, Alan et Checkout, j'ai dû en avoir un et demi ou deux en moyenne. Donc, je suis content d'avoir quelqu'un qui est un vrai produit brigade dans lequel il y a un vrai parcours. On va expliciter tout ça et peut-être pour que tout le monde sache qui t'es. Donne-nous un peu ton état civil, mais surtout en fait ton rôle aujourd'hui chez Brigade.
Yes, merci pour l'invitation déjà. Je suis Grichard Bokassiam. J'ai 29 ans, je suis célibataire. J'ai étudié à Ibitech. Avant ça, j'ai fait un bac S au lycée Aragon dans Paris. Ibitech ensuite, on lance en Colomb et à partir de la troisième année d'Ibitech, je commence à travailler avec Brigade et à la création d'entreprise. Aujourd'hui, je suis VP Engineering. Je travaille pas mal sur le roadmap technique. Donc, j'ai la responsabilité de travailler avec tous les autres équipes, produits et opérationnels pour construire un bon roadmap technique sur lequel l'équipe va se pencher et se concentrer. Et également pas mal sur nos façons de travailler, sur notre process de delivery, comment on fait pour que notre façon de travailler, on continue à les garder pour ce qui est dans l'équipe. Je crois.
Pas trop bien, t'inquiète pas. Super. Et donc on va peut-être rentrer un peu dans le détail de ce que tu fais. Peut-être si on retourne un peu en arrière, t'as parlé de l'Epitech juste pour comprendre un peu ton background. Donc toi t'as grandi à Paris. C'est quoi ta relation avec la tech, l'innovation, les startups pour voir comment t'es tombé dans la partie. Est-ce que t'es un geek au départ? C'est quoi ton histoire au début?
C'est ça, le truc, c'est que j'ai pas vraiment grandi à Paris. J'ai grandi en Arménie.
D'accord.
Je suis né là-bas, je suis arrivé en France quand j'avais 13 ans. Historiquement, c'est mon père qui adorait, en fait, qui a un domaine informatique. On devait être une des seules familles en Arménie à avoir un ordinateur à la maison. Donc, moi, qui suis un peu, je suis bien assez débrouillard dès que j'étais petit. J'ai essayé de fouiller, de comprendre, d'installer des choses et tout. Lui, ça me stressait parce qu'il ne savait pas ce que j'étais en train de faire, mais voilà. Moi, à 10 ans, je comptais mes choses, je commençais déjà à me coder quelques petits trucs et tout. Mon père, il a vécu en France, il était journaliste politique là-bas.
Okay.
Quelques problèmes avec le pouvoir qui ont fait que, à un moment donné, il est venu en France en tant que réfugié. Et, 3 ans après, on l'a rejoint ici, avec ma mère et ma sœur.
D'accord.
Du coup, moi, un profil assez scientifique, j'aime bien les maths, j'aime bien l'informatique, lycée directement, il n'y avait pas d'hésitation pour faire un lycée S. J'essayais de chercher l'un des seuls lycées à Paris qui faisait séance d'ingénieur.
Ok.
C'est pas mal.
Dès le début, tu savais ce que tu voulais faire?
J'hésitais un peu. J'hésitais entre devenir journaliste ou devenir, ou faire de la tech. C'était un peu les deux, en fait, parce que, d'un côté, il y a mon père qui est passionné de journaliste et tout, donc forcément, je le regarde dans mon vie. Et moi, je suis assez. Je m'intéresse assez rapidement à la politique depuis que je suis petit et tout. Donc, c'était un peu de l'autre côté. C'est ça qui me faisait une idée. J'étais, par exemple, à la fin du lycée, j'étais accepté à Sciences Po à Paris. Et en même temps, j'étais accepté à Epitech.
D'accord.
Et la seule différence, c'est que, Epitech, leur rentrée, c'était un mois avant Sciences Po. Il y avait leur piscine. Donc, je me suis dit, je vais l'attendre. Ça m'engage à rien. Et comme ça.
Donc, t'as dit oui aux deux?
J'ai dit oui aux deux.
D'accord.
Donc, je suis allé à la piscine d'Epitech. Et en fait, dès les premiers jours, c'était une immense. Je savais que j'avais envie de continuer à faire ça. J'adorais ça. J'adorais le mindset, surtout la piscine d'Epitech. Je sais pas si tu connais un peu.
Ouais.
En fait, le mindset est assez incroyable. Ils appellent ça un piscine parce qu'à un moment donné, tout le monde finit par se noyer. Mais en fait, surtout, tu plonges tous dedans en même temps et on va essayer d'apprendre en discutant autour de nous, en faisant des projets tous les jours et tout. J'ai adoré ce mindset. Ce mindset de, OK, on a des problèmes, on juste des problèmes, on ne sait rien, on doit apprendre par nous-mêmes et apprendre en discutant avec tous les autres et tout. Et par rapport à ça, on sera des jeunes. Forcément, ça m'a séduit. Donc, dès le premier semaine, je savais déjà que j'avais pas envie de continuer à faire ça. Donc, j'ai écrit à Sciences Po pour dire finalement, je ne veux pas venir, je libère ma place pour qu'il y ait un autre. Ah,
t'as fait
un
peut-être.
étudiant qui aime peut-être heureux au final.
Voilà, c'est ça, t'as fait un heureux, donc ça c'est cool, ou une heureuse. Ça c'est super. Et aussi la particularité de l'EPITECH, c'est que t'as un mode d'enseignement qui est très. C'est les étudiants qui enseignent à d'autres étudiants, enfin de mémoire. Et ça, ce côté-là, un peu genre. En fait. T'as peut-être une personne qui a une ou deux promos avant toi et qui va t'apprendre finalement soit un nouveau langage, soit des nouvelles choses sur un sujet qui sur l'informatique, sur le je sais pas, sur les réseaux, sur l'IA, peu importe. Donc c'est intéressant.
C'est ça en fait, j'adore leur façon d'enseigner parce qu'en fait, ils te laissent apprendre par toi-même. T'es entouré d'étudiants, la plupart des gens avec que tu vas avoir en contact, ça sera principalement d'un étudiant en plus d'une deuxième ou troisième année, donc à peine plus âgé que toi.
Oui, c'est ça.
Et c'est des gens qui sont pas là pour t'apprendre, c'est des gens qui sont là pour t'apprendre à apprendre. Donc quand tu vas poser une question, ils vont plutôt te guider sur comment tu pourras aller chercher l'information pour comprendre c'est quoi la réponse. Donc ils vont jamais te donner directement la réponse. Donc c'est un mindset que j'aime beaucoup parce que du coup, en fait, tu en sors. Le projet en soi, bah, c'est pas grave, tu as réussi le projet ou tu n'as pas réussi. Forcément, notre objectif, en gros, c'était principalement d'essayer de tout faire pour réussir et tout. Mais en fait, tu sors du projet, tu as oublié le projet, c'est pas grave, enfin, plus tard, tu pourrais peut-être le refaire parce que tu as appris comment le faire. Enfin, tu as appris comment apprendre les choses qu'on pourra le faire. Donc, c'est jamais du par cœur, tu vas jamais faire des cours, faire des TD et tout, mais tu vas plutôt essayer de réussir le projet.
Ouais, c'est super. Et d'ailleurs, est-ce que on parlera de Jean plus tard, mais Jean, il a fait l'Epitech aussi ou pas?
Jean, il a fait l'Epitech.
Ah, voilà,
Il
d'accord.
avait deux promos au Tizou.
D'accord. Donc, il y a cette mafia Epitech déjà depuis le début, en fait.
Bah, le mafia Epitech, ouais, c'était le premier jour de brigade. En fait, moi, quand je rejoins Epitech, dans la première semaine, j'ai rencontré trois autres mecs,
Ouais.
qui étaient Thibaut, Adrien et Léon.
Ouais.
Et c'est des gens que j'ai rencontrés un peu par hasard. Vraiment, sur la première semaine, Léon, par exemple, c'était en plein milieu de la nuit, en train de préparer le projet qu'on devait rendre le lendemain matin. On prépare une call et il se balade dans l'open source et enfin dans l'open space et c'est comme ça qu'on le rencontre. C'est beau, à un moment donné, je parcours un couloir et je le vois assis, la tête entre les mains, en train d'essayer de comprendre quand même à 3 h du matin.
C'est
Je
vrai.
m'assois à côté de lui et je regarde son problème avec lui, on discute jusqu'à ce qu'on finisse par le trouver 30 minutes plus tard. Et c'est comme ça que je le rencontre. Adrien, pareil, il était juste à côté de moi et il bossait
Mais les
pour
trois
l'open space.
sont déjà dans la brigade, non?
Les trois étaient dans le brigade dès le premier jour.
C'est vrai. Ah oui, je ne savais pas ça. D'accord. Donc il y avait Jean qui avait déjà fait son marché de talent.
Exactement. En fait, Invitech, pour valider le diplôme, à partir de la troisième année, il faut qu'on fasse, c'est ce qu'ils appellent un MEUP, qui est un projet de fin d'études. C'est un projet sur 18 mois, où normalement c'est quelque chose d'assez scolaire. Les étudiants, ils préparent le projet, ils le présentent, et ils travaillent dessus pendant 18 mois, pour pouvoir avancer sur le roadmap et tout. Et à la fin, il y a une présentation, il y a une séquence. Nous, on n'avait pas trop envie de faire quelque chose de scolaire, donc on s'est dit, bon, ok, on a envie plutôt de le faire avec des gens de l'extérieur. Pour pouvoir, bah, en fait, voir un peu comment ça marche, une boîte de l'intérieur, comment on crée une boîte et tout. Et à ce moment-là, il y a Flo et Jean qui avaient déjà l'idée de brigade, qui avaient déjà envie de monter brigade. Et du coup, on a commencé à se parler. On s'est rencontrés à ce moment-là, on a commencé à se parler et tout. En fait, ça a fité dès le départ. Donc, nous, on a présenté à Evitel. Il y a pas mal de réticences au début de leur côté parce que, bah, c'est quelque chose de nouveau, c'est pas l'habitude de travailler avec une boîte, enfin, avec des gens qui créent une boîte à côté. C'était pas dans le format, la façon de vendre, les documents et tout. Enfin, il n'y a rien qui correspondait. En plus, il y avait des NDA à signer et tout.
OK.
Mais au final, en faisant un peu marcher le réseau, en parlant avec le directeur général, en parlant avec lui qui était directeur pédagogique à ce moment-là et tout, on a réussi enfin à débloquer le truc. Et du coup, dès la création de Brigade, bah, avant même qu'on ait une numéro, par exemple, on a commencé à travailler dessus avec Thibaut, Adrien.
Et Brie aussi, il fait passer de
Bah,
bon.
Brice, c'était notre directeur pédagogique à partir du 4e année, donc il avait un peu suivi l'histoire de brigade et tout.
C'est énorme. Ah, je savais pas tout ça. Ah, ok, c'est super. Donc, finalement, c'est dans la continuité de ta formation que finalement il y a une mise en application de tout ce que tu as appris dans une petite boîte qui s'appelle à l'époque Brigade. Comment tu rencontres Jean? Donc, c'est dans ce cadre-là. Lui, il chapeaute.
Je rencontre Flo de base parce que le frère de Flo fait partie des gens qui étaient dans ce groupe-là.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Thibaut, qui aujourd'hui vit mon chez Brigade, bah, c'était le frère de Flo. Et du coup, Flo, j'avais déjà rencontré avant dans la maison de vacances et tout. Et quand nous, on commence à chercher un projet, on a deux, trois pistes déjà. Et à ce moment-là, Flo avait déjà vendu Printing. Il avait déjà l'idée de Brigade qui me travaillait dans la tête et tout. Et à ce moment-là, bah, en fait, si lui en parle, il ne va pas venir. Enfin, venez, on va créer une boîte. Donc, venez dès le premier jour et ça va être cool. C'est cool. Hein.
Ils nous font, on fait un dîner chez nous. Ils nous pitch brigade, on donne un petit moment et tout. Et en fait, dès le départ, on aime. Non, mais c'est une note, ça a l'air trop cool. Donc, pourquoi pas.
Super. Donc là, tu les rejoins en tant que stagiaire ou tu les rejoins? Comment ça
En
marche?
tant qu'à eux, sur la première année, on était pas salariés, on avait un statut
D'accord.
freelance, et donc à eux, on a trouvé une queue.
Ok. Et là, c'est quoi ton périmètre? Tu bosses sur quoi à ce moment-là?
Alors, on est quatre, on doit monter une appli, de zéro, du coup. De base, l'objectif, c'était déjà moi, je stoppe le web. Moi, je me concentre assez rapidement sur le Mac, sur, OK, on doit mettre en relation les gens. Comment on fait pour faire ça automatiquement de notre côté? Donc, au début, il n'y a pas d'automatisme. Au début, c'est un fichier Excel où ils vont tout simplement regarder sur le fichier Excel, c'est matcher les joueurs et tout. Pour l'anecdote, la première mission de brigade, c'est mon petit ami de l'époque qui allait faire cette première mission.
C'est vrai? Non.
C'était dans Sweet Spot, c'est un restaurant le 15e. Et, en fait, quand ils vont le c'est vraiment la première mission sur lequel, on compare à l'époque, il était étudiant pour devenir, designer.
Ouais.
Et à côté de l'étude, en fait, il est méga fort en extra. Et du coup, je l'ai dit, si tu veux, il y a une première mission qui s'est créée. Et donc,
Mais
il s'est
ça
inscrit
se...
et il est allé faire la première mission.
Et on s'inscrit là à ce moment-là, il y a pas une mise en relation par SMS parce qu'en fait la première version de mémoire parce que je connaissais déjà Brigade à ce moment-là. Il y avait un truc, il y avait un espèce de hack en disant, OK, on n'a pas le temps de faire une plateforme ou une app mobile, on va faire un truc de mise en relation par SMS où tu as le côté supply et enfin, le côté talent et le côté restaurant. C'était ce moment-là, en fait.
Exactement. Alors, on avait un job board qu'on avait créé,
Ouais.
sur lequel les gens pouvaient s'inscrire. La mise en relation, c'était complètement manuel. Les
D'accord.
gens, ils regardaient, d'un côté, sur un Excel, on avait exporté la liste des missions et on regardait la liste des personnes qui pouvaient matcher et tout. Et du coup, c'était vraiment par SMS au début qu'ils m'envoyaient et tout. Après, on a fait la première version de la good matching qui sélectionnait les gens plutôt par rapport à leur disponibilité. Et du coup, je pareil, on copiait-collait les numéros de téléphone et on les envoyait. Flo, il a fait ça pour quelques mois.
C'est super parce qu'en fait là tu vois vraiment l'arrière-boutique de comment ça marche le zero to one et le fait de faire fonctionner un produit enfin, en tout cas de valider un besoin et une opportunité.
Exactement, c'était un moyen pour nous de montrer qu'il y en a un vrai besoin et que ça marchait.
Et à ce moment-là tu as une sensibilité produit expérience/business est-ce que tu ou t'as toi ce qui t'intéresse c'est plutôt la tech en disant bah très bien je suis avec finalement quelques potes de promo. Il y a un enjeu technique super intéressant et tu vas apprendre en marchant.
En fait, j'aime bien la tech, mais j'aime bien la tech pour faire autre chose. Ça a toujours été
Un moyen.
ouais, exactement. C'est ce que j'aimais bien avec Epitech, parce que tu faisais de la tech pour pouvoir créer des projets. Et encore, je trouvais que leur projet était trop technique. Donc, tu vois, ça pouvait être beaucoup plus. Enfin, si on avait des liens avec d'autres entreprises, d'autres mesures d'innovateurs et tout, ça serait encore plus intéressant, je pense, au petit film d'abord. Donc, non, en fait, dès le début, ce que j'aimais bien, c'est le projet, parce que du coup, on répondait à une vraie besoin des gens. Et moi, j'étais assez sensible au projet, j'étais assez sensible aux problématiques business qu'on avait et tout. Dès le départ, donc, je savais que je faisais de la tech pour répondre à ça. C'est pour ça que, une des parties dans la tech qui m'a le plus plu, c'était vraiment les algorithmes de relation et tout. Parce que c'est un moyen direct d'avoir de l'impact sur les gens.
Ah,
Un
c'est cool.
moyen direct d'apporter de la valeur à nos utilisateurs.
On en parlera peut-être plus tard tout à l'heure sur la partie. Oui, toujours quelque chose qui m'a fasciné sur cette partie algorithmie, c'est comment tu mets le pied à l'étrier à des talents sur potentiellement d'autres fonctions, d'autres jobs qui n'ont jamais eu, mais en validant un peu les acquis. Je crois que ça va être un nouveau. Je sais plus comment ça. Flo m'a pitché le truc il y a pas longtemps, donc. Ouais, le level up et ça, je trouve ça vachement intéressant cette partie de OK, t'as été un chef de rang extraordinaire, bah oui, en fait, potentiellement, tu peux peut-être gérer un établissement parce qu'en fait, t'as validé telle chose et telle chose et on va te mettre dans un rôle de manager plus important. Toi, tu bosses ou t'as bossé là-dessus?
J'ai bossé là-dessus. On a une PM qui a été très très impliquée dans ce projet, qui est une qui a pour nous porté ce projet pendant quelques mois, jusqu'à ce moment de ça. En fait, c'est un projet qui match avec votre mission directement.
Ah oui.
On veut rendre le travail beaucoup plus accessible. Et là, on est au point de non. Comment on fait pour que un serveur qui a fait d'excellentes missions, qui est entreprenant, qui retourne que des retours, que des feedbacks positifs, on le fasse progresser dans sa carrière pour que, bon, pour que lui se progresse dans sa carrière par lui-même, pour qu'il aille chercher une mission d'achat de rang, pour qu'il montre que en fait, il est capable de faire d'autres types de missions.
Ouais, c'est sûr, mais c'est dans le sens de l'histoire. Donc, si on revient sur le début de Brigade, toi, tu vois comment, enfin, l'équipe tech, c'est finalement vous quatre, ces gens qui vous chapeautent.
C'est moi qui me chapeaute, Jean qui a plus d'expérience que nous, forcément, qui est en train de terminer son stage de fin d'études aussi.
Bah oui.
Parce que lui, il est en cinquième année, nous, en troisième. Il a déjà quelques idées de comment on va faire l'archi. Donc, nous, on n'a jamais fait cette école-là. Donc, on mérite, on apprend en même temps qu'on va le faire. Donc, c'est vraiment une boîte qui se crée, avec quatre étudiants qui n'ont jamais vraiment bossé dans une boîte encore et qui sont juste très faits des boulards, quoi.
Ouais. Et Jean qui, finalement, tout de suite, prend le costume de senior, alors pas forcément lié à l'expérience, mais plutôt pour comprendre l'enjeu de, il faut monter la boîte, il faut que ça tourne, ce côté un peu.
En fait, ce qui est cool, c'est que les gens, dès le départ, ils ont fait beaucoup confiance se retirent quand même de la tech. Par exemple, c'est pas lui qui va arriver nous perdre et tout. On va le faire entre nous. On va essayer de garder un maximum de qualité entre nous, pour garantir l'excellence de ce qu'on fait. Et genre, il va prendre pas mal de recul pour se concentrer plutôt sur des problématiques business, pour essayer de transformer cette problématique business. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire côté tech, côté produit pour y répondre? Donc là-dessus, c'est très, très bon pour nous parce que c'est il a beaucoup d'expérience, il nous apporte beaucoup, il nous donne beaucoup de conseils et tout. Et en même temps, il nous laisse pas mal d'espace pour pouvoir apprendre par nous-mêmes et travailler.
Super. Et donc, juste pour comprendre un peu comment évolue ton rôle sur les 36 premiers mois, sinon on fait un petit focus sur un peu ton évolution, parce que finalement rapidement en fait le fait de devenir une boîte tech et pas une boîte de service est clé dans le finalement dans l'ambition de Flo et Jean. Donc il y a ce hack côté SMS. Rapidement, il faut faire une plateforme. Comment l'équipe évolue? Est-ce qu'elle se seniorise, oui non? Et toi, tu gardes la partie finalement mise en relation, algorithmie. Qu'est-ce que tu fais de plus à ce moment-là?
L'équipe, elle se seniorise sur la première année. Sur la première année, au bout de 6 mois, on recrute 3 développeurs en plus. Ils sont plus seniors que nous.
D'accord.
Qui nous rejoignent. L'avantage, c'est que ça permet de pouvoir construire des choses un peu plus durables. D'avoir un parole d'expérience qui va nous aider. Moi, à ce moment-là, je me concentre plutôt sur comment on fait pour répondre aux problématiques du coding, justement. Comment on fait pour que tout ce qu'on faisait manuellement jusqu'à là, on l'intègre dans le produit, pour que les SMS se partent tout seul, pour que quand on talent répond à une proposition, en fait, sa réponse soit prise en compte par rapport à ça, avec la mission et tout. Je fais ça sur ce problème-là pendant la première année.
Et là, t'es en stand-alone ou t'as une équipe ou c'est combien?
Je travaille avec un entre les deux corps principalement, Charles. On est vraiment un duo, on travaille vraiment sur toutes ces problématiques-là et tout. Au bout d'un an, j'ai une façon de bosser qui fait que, il s'est dit, peut-être qu'il ne doit pas passer vite.
Ok.
Peut-être qu'il ne doit pas être du senior. Vu que j'ai une grosse sensibilité business, je savais que quand je fais de la tech, pour répondre à la problématique business, je ne fais pas de la tech, je pense que c'est ce qu'il faut faire de la tech. Et du coup, c'est un peu qui fait que ça ne matche pas assez bien entre nous, et du coup, il me fait confiance assez tôt pour me faire passer en ligue de l'équipe back. À ce moment-là, la taille d'équipe, c'est 4-5 personnes. Historiquement, on est resté à peu près la même taille de l'équipe jusqu'à 20 ans, parce que on aime bien avoir une équipe plutôt au CNL qui va aller très très vite. Donc, à ce moment-là, je passe feedback avec mon objectif de, comment on fait pour que, pour avoir une équipe qui est très, très souple par rapport aux problématiques produits et qui va faire en sorte que la tech soit pas vraiment un bloqueur pour le jeu.
Et sur la partie back, t'as toute la partie, interface de paiement, tous les gestions back-office, tout ça, c'est de ton côté ou?
Exactement. Okay. On avait 3 grosses parties qui étaient partie utilisateur. On travaille sur l'expérience utilisateur, gestion de compte, récupération de leur expérience et tout, par rapport à ça, créer leur profil et tout. Deuxième partie qui était la partie mission, matchmaking, comment on fait pour permettre au business de créer des missions, exprimer un besoin par rapport à ça, aller chercher le bon talent, la partie conviction. Et troisième, qui était paiement facturation. On ferait pour que les missions soient payées directement par la plateforme, facturées par la plateforme, qu'ils aient accès à toutes les informations légales.
Plus le paiement des talents toutes les semaines. Parce que
le paiement des talents toutes les semaines. Ah, c'est une vraie histoire.
Parce que ça, c'est quand même un enjeu énorme. C'est pas facile du tout de...
C'est un vrai enjeu. À l'époque, c'était manuel. C'était très, très compliqué de faire ça. Quand quelqu'un doit faire un virement de plusieurs dizaines de milliers d'euros, à ce moment-là, on est tous du bois. Donc, ça stresse beaucoup. Il y a plusieurs vérifications manuelles et tout. Donc, c'était un vrai enjeu pour nous de pouvoir automatiser ça, d'avoir quelque chose de beaucoup plus clean.
Ouais, c'est intéressant parce que ce sujet qui a l'air hyper facile quand on le dit... sur un podcast, et ben c'est un enjeu technique énorme parce qu'il y a toute la complexité de aussi de s'interfacer à X système bancaire, X système de paiement, qui fait qu'à un moment en fait l'argent il est sur différents comptes, il transite ou pas par brigade, enfin bref, c'est
un... Surtout, on avait une problématique un peu différente aussi, c'est que le paiement des talents ne dépend pas du paiement de business. On n'attend pas que le business soit payé.
Côté cash flow, c'est ça que tu veux
dire? Okay. On a un problème de fonds de roulement,
ouais,
qui faisait que bah, pour une petite boîte, c'était quelque chose qui était assez important comme problématique. C'était que bah, d'un côté, il faut que le business le paye, et de l'autre côté, on se gage auprès des talents, il est payé toutes les semaines, même si le business n'a pas encore payé.
Ouais, donc d'où l'intérêt d'avoir des fonds d'investissement qui vous aident à aussi financer ce buffer et puis qui permet aussi d'accélérer la croissance. Donc juste pour revenir un petit peu dans le temps, si on regarde un petit peu, on fait un zoom sur ton rôle sur la partie au moment finalement du premier confinement. On en a parlé avec Julia tout à l'heure. Elle m'a expliqué un peu comment elle s'était réinventée autour de la santé. Sur la partie tech, il y a eu plusieurs vagues en fait de refactoring et de mémoire. Je crois la partie le premier confinement a été une période dans laquelle Jean, je me rappelle avoir fait un déj avec lui. Je pense avant le premier confinement parce qu'à l'époque tout était ouvert. Et un débat assez houleux sur, tu vois, sur le dire, ouais, il faut qu'on refactore tout parce que on a ça comme legacy, on va pouvoir changer de braquet. Il y avait toutes les histoires, tu sais, de grands comptes, machin, dans lequel il fallait. Et je disais, mais t'es sûr. Et boum, il y a le premier confinement qui arrive. Et là, il me dit, bah ouais, c'est le meilleur moment. Si on fait un zoom un peu sur cette période-là, j'aimerais bien savoir comment toi, un peu le ressenti côté opération et comment c'est passé.
C'était essentiel pour nous. C'est une problématique que moi, j'avais relevée à partir de, mi-2019. On a un bon réfacteur qui vient mi-2019, qui est de pouvoir avoir une multi-account. C'est-à-dire, un compte business, c'est pas juste un compte utilisateur. Tu peux créer un site avec plusieurs utilisateurs et tout. Et ce réfacteur-là, il prend à peu près 4-5 fois plus de, cette feature, prend à peu près 4-5 fois plus de temps que prévu. On a trop de legacy, on n'a jamais fait ce travail de cleaning, on a une base de notre archi qui n'a jamais été propre, on n'a jamais mis d'effort sur l'expérience des développeurs. Ce qui faisait que, en fait, on se trouvait à itérer très, très doucement, on avait l'impression d'être une très grosse boîte. Et ça ne marchait pas. Parce que, la boîte a besoin d'être très agile, pouvoir répondre à des problématiques business assez rapidement. Fin 2019, le problème, il est identifié. Je commence à travailler déjà sur la première proposition. À ce moment-là, je vois Brieux qui nous a rejoints déjà depuis près d'un an. Il nous faut confiance. Moi, je suis très content de refactoring qui m'a souffert sur quelques mois, qui va nous permettre d'avoir une base de l'archi qui permet d'aller très, très vite.
Sur la partie back-end?
Sur la partie back-end.
D'accord.
Le refactoring de l'ensemble du code vient de cette problématique du back-end.
D'accord. Le bottleneck, il est côté back-end. Ok.
Donc, voilà, le back-end, c'est un vrai ralentissement. Et du coup, moi, je propose vraiment un projet de, ok, on va refactoriser ça, on va cleaner, on va essayer d'automatiser pas mal de choses. On a l'habitude d'automatiser pour les opérationnels qui vont arriver sur. Donc, on va faire la même chose que des techs. On va automatiser pas mal de choses, on va générer du code, on va ajouter beaucoup de choses dans le CI et tout. L'objectif étant qu'on va les mettre en fait, ils se concentrent maintenant sur là où ils ont du valeur ajoutée. Donc, le métier logique, ils font pas tout ce qui est autour de configuration, de déploiement et tout. Je présente le projet, c'est début 2020, on commence à valider, ok, on va le mettre au place et tout, mais là, il y a le Covid. Le Covid, forcément, au niveau de la boîte, c'est un vrai problème. Côté tech, c'est une tonne d'opportunités. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir en faire, on va pouvoir avoir quelque chose de vraiment scalable.
Là, toi, t'es où? T'es parisien ou où est-ce que tu passes ton
Je suis
premier
parisien, je suis dans mon appart, 30 mètres carrés, dans le 9e, orienté nord, premier étage. J'ai pas vu le soleil pendant un mois et demi.
Wow, ok.
Ouais, ça a été, ouais, le Covid, ça a été assez dur. Moi, ce qui était cool, c'est que il y avait le DAF, j'avais ce projet vraiment agréable que j'avais déjà, enfin, moi, j'avais passé quelques mois à essayer de préparer le projet en amont, faire tout le travail de recherche et tout. Donc, c'est le seul chose qui me fait tenir, ouais. Parce que,
Ah ouais.
c'est méga excitant pour le projet. Donc, on se concentre vraiment là-dessus et on se dit, OK, on va y aller à fond. Et je pense que sur ces 3, 4 mois de la factory, on a pris peut-être 5 ans d'avance sur notre tech et tout. Et depuis, il n'y a jamais eu de problème. En fait, une problématique de base level, c'était, OK, faut jamais qu'on se retrouve à un moment où la tech, c'est le bottleneck. Mec.
Bien sûr.
Pas juste le bac, c'est vraiment toute la tech. Donc là, c'était vraiment une problématique. C'était, qu'est-ce qu'on fait pour que la tech ne soit jamais, ne dise jamais, non, c'est impossible, non, c'est trop compliqué, non, ça prend trop de temps.
Oui, et même à terme, comment on accélère le business, quoi, tu vois.
Exactement.
Comment on peut faire x10, x15, x100 sur des enjeux business, parce que la tech a été bien pensée en amont, quoi. Donc finalement, il y a une première période de réflexion stratégique sur cette partie, comment on réinvente la tech pour faire x100, x1000 en termes de business. À ce moment-là, c'est quoi la taille de l'équipe? Parce que il y a eu aussi des enjeux. J'imagine qu'il y avait pas mal de gens à droite, à gauche, en remote. Comment, c'est quoi ton équipe? Elle ressemble à quoi?
Il y avait pas mal de gens en remote, il y avait des gens qui étaient partis. On avait une petite équipe, on était vraiment sur le projet, on était 3-4 à travailler. Donc c'est une petite équipe, l'avantage c'est qu'on peut aller très très vite, on peut avoir du feedback direct sur est-ce que ça fonctionne ou pas. Surtout, le projet, ouais. Enfin, une fois que l'archi était mis en place, une fois on avait validé tous les steps de l'archi, on a pu le tester assez rapidement sur, c'est compatible, mais on l'a testé sur PME et facturation d'abord.
Ah ouais?
Parce que,
Mais là, on est d'accord. On repart d'une feuille blanche.
on repart d'une feuille blanche.
Donc, il y
Donc,
a zéro ligne de code là.
il y a zéro ligne de code à côté, c'est une nouvelle mémoire. Et la première service sur lequel, parce que du coup, l'objectif, c'est aussi de, notre archi, on service vraiment séparé. Et le premier service sur lequel, le site qu'on va se concentrer, c'est paiement et facturation. C'est
Pourquoi?
la partie la plus sensible.
Pourquoi?
Mais en fait,
Pourquoi tu fais ça?
parce que on n'avait pas confiance dans notre système legacy, alors que nos systèmes, on le trust à fond. On
Okay.
sait qu'on fait les bons choix. Enfin, tous les tests sont bouclés. On sait que ça va être beaucoup plus clean. Ça va être full testé. Il y aura pas de monde de doute. Donc, à partir de là, c'est la partie qui est le plus sensible. Et du coup, avant de pouvoir toucher tout le reste, parce qu'à chaque fois que tu vas toucher aux missions, tu vas toucher au compte de business et tout, ça va avoir un impact sur le paiement et facturation. Donc, je
D'accord.
préfère garantir que partie paiement et facturation, tout est testé, tout est clean, tout est déployé, on ne touche plus avant de travailler sur tout ce qui est outdoor, parce que comme ça, tu minimises le risque de faire des erreurs.
C'est pas bête, c'est pas bête, ça fait du sens. D'accord, donc et donc là, vous mettez combien de temps à le faire? C'est quoi le...
Paiement facturation, on met 3 semaines à le faire avec Généo, on fait un énorme taf là-dessus. L'avantage, c'est que ça valide pas mal de choses de l'archi. Ça me fait aussi revoir certaines parties qu'on n'avait pas vues au jour le jour. Moi, mon taf vraiment à ce moment-là, c'est OK, quand on va le connaître, c'est quoi les parties qui sont répétitives? Qu'est-ce qui est répétitif? Sur quoi on va générer du code? Sur quoi on va essayer d'abstraire tout? Ça ne me dérange pas de faire de la tech. À partir du moment où on fait de la tech pour que, au jour le jour, quand on fait les features, en fait, on n'a pas besoin d'en faire. Que ce soit super simple, que ce soit intuitif, et qu'on aille très vite sur les problématiques business. Donc, à ce moment-là, en fait, je vois que, on a encore des problèmes il y a des choses qu'on va écrire en 2 fois, 3 fois, il y a des configurations Terraform qu'on va faire, il y a de l'infra qu'on va devoir faire pendant qu'on développe des features. Pour moi, il y a pas question. Ça, c'est des choses qui sont prévisibles, ça veut dire qu'on va pouvoir en générer. Donc, on perfectionne un peu l'archi à ce moment-là et on continue. La prod se passe super bien, pas de problème de paiement.
D'accord, donc vous miguez la prod.
On dit la prod, pas ça.
Waouh, ok, je ne savais pas ça. Et c'est supervisé par Brieux et Jean à ce moment-là, ou comment?
Je suis seul à ce moment-là sur
Ouais.
le sujet. Il me faut vraiment confiance à fond. Donc, on en parle, je les réponds pas mal, tu vois, pour que comment ça avance, sur les problèmes ou pas et tout. Mais ils me font vraiment confiance. Et surtout, c'est que c'est un premier projet sur lequel, du coup, je ne travaille pas qu'avec le bac. En fait, je suis un projet sur un truc qui touche autant le produit, le bac, le front, parce que du coup, il y a des interfaces à en faire.
côté produit, il y a toute l'expérience de notification qu'on va faire pour en même temps, toute l'éducation transactionnelle, la façon dont on va l'organiser. Donc, pour une fois.
Bah, et toi, ça te fait pas peur, là, à ce moment-là? T'as quel âge, là, quand tu.
Je suis normalement 30.
Ah ouais, quand même.
Donc, je pense,
ouais. Ok. Mais donc, parce que c'est quand même un gros, gros morceau.
C'est un gros morceau. C'est un peu stressant, mais.
Ah, c'est, donc, tu sens quand même, tu sens la pression, quoi. Tu sens quand même qu'il y a des enjeux business.
Sur les derniers moments, je sens l'impression, parce que c'est le moment où, bah, ça y est, on va faire le gros switch. Tout faut que ce soit parfait. On a tout prévu pour que ça tombe. Mais, enfin, en fait, tiens. On n'avait pas envie de faire une erreur, quoi. On s'était vraiment mis comme objectif de, OK, il y a zéro downtime sur un fraud. Tout se passe nickel. C'est, enfin, c'est transparent pour les utilisateurs.
Et c'est, ça a été le cas.
Ça a été le cas.
Super. Et donc, ce refactoring réussi. Le suivant, c'est tout le reste. Finalement, sachant que finalement, le premier étage de la fusée, facturation, paiement,
ouais.
Est bon.
On peut enchaîner sur le reste.
Et le reste, c'est plus facile ou c'est tout aussi complexe?
Il y a d'autres problématiques, mais en vrai, c'est beaucoup plus simple. Parce que du coup, on sait exactement où on va.
D'accord.
C'est sur le reste. Bah, du coup, on a commencé à intégrer le front, on a commencé à intégrer le produit, on a commencé à faire pas mal de... Enfin, c'est là que ça va... En fait, une fois que Bingo Virtuation est démo, quand on commence le reste, c'est là que ça switch, c'est plus un refactoring back. C'est un refactoring de tout notre code base, toute notre façon de faire du produit. C'est à ce moment-là qu'on se décide. Okay. Bon, en fait, c'est cool, ça fonctionne très bien, on va le faire partout. Parce qu'on a aussi une bonne période pour pouvoir le faire, on n'a jamais eu le Covid, et du coup, on peut prendre le temps pour pouvoir faire ça.
Ouais, ça, c'était vraiment un coup du sort assez exceptionnel d'avoir ces quelques mois, en fait, de libre, de bande passante, en fait, pour pouvoir bosser là-dessus et essayer de changer de braquet, sachant que finalement, un des paris, c'était aussi de se dire, de mémoire, c'était de se dire, OK, comment on reste sur un périmètre d'équipe tout petit, avec une tech finalement qui soit relativement maîtrisée, mais dans lequel on fait 10, 20, 50 fois plus de business.
Pour moi, c'est un vrai enjeu. Sur un petit patte comme ça, c'est vraiment un jeu de, bah, en fait, faut pas aller recruter juste parce que t'as des problèmes.
Bien sûr, bien sûr.
T'as des problèmes de délivrer, t'as des problèmes de dossier. Faut juste se concentrer sur ton équipe. Je pense qu'avec une petite équipe, tu peux aller très très vite. Et répondre à toutes les problématiques de, à toutes les problématiques business, même si c'est 5 fois plus. L'enjeu, c'était, OK, comment on fait pour investir dans la tech, histoire que, en fait, tous les jours, quand on fait des features, quand on va monter la valeur à l'utilisateur, on perd le nombre de temps bossé, qu'on puisse aller très, très vite, donner des nouveaux, features et tout. Donc,
ouais,
il y avait pas un investissement qui faisait que, derrière, on allait pouvoir continuer à travailler avec une petite équipe et un développement.
Super. Et donc, là, après, ton rôle évolue parce que, il y a Brieux qui step up en tant que CTO. Il y a Jean qui passe sur la partie produit. Comment ça évolue ton rôle et comment l'organisation globalement, tu vois, est-ce que l'équipe tech dans son ensemble, comment elle grossit ou comment elle se spécialise?
Yes, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, du coup. En même temps que Jean, il passe sur le produit. On a des problématiques de data. Donc, on se décide, OK, c'est peut-être le moment de commencer à investir dans la data, essayer de faire notre premier data platform. On a personne en dame qui avait fait ça, mais encore une fois, l'équipe débrouillarde.
C'est toi qui te colle, mais,
je mets un de mes développeurs, justement, qui était là depuis le début, Léon, à travailler dessus. Donc, moi, à ce moment-là, je passe direct au fond engineering. L'objectif, c'est que je travaille un peu plus sur, les enjeux des différentes équipes et que j'essaie de les réunir dans la tech. C'est de transformer un projet talking.
Et c'est quoi l'objectif là? C'est d'avoir un espèce de data lake simple, c'est ça?
D'avoir une première data lake. Moi, ma première problématique, c'était le projet. On a beaucoup de domaines. J'ai envie de pouvoir les joindre ensemble parce qu'on a plein de services différents, du coup, qui chacun a son domaine. Dès le départ, bon, on avait fait le gros refactor. J'avais fait le choix de historiser tous ces domaines-là. C'est-à-dire que toutes les données, à un moment, on a fait un temps de machine à état inversé. C'est-à-dire, quand on offre de modifier la version d'avant, il est stocké dans une table historisée.
Okay.
Donc, je peux voir l'évolution de toute ta data depuis le début.
Pourquoi tu avais fait ça?
Parce que c'est des problèmes. Enfin, parce qu'on bosse.
Tu veux revenir en arrière pour revenir en arrière ou pas du tout?
C'est, même avant de revenir en arrière, c'est de comprendre, en fait, pouvoir comprendre tes analyses. Si je crois que ton état de ton utilisateur, par exemple, à la dernière moment, tu sais pas comment il est arrivé jusque-là.
D'accord.
Pouvoir analyser comment c'est passé depuis le début, comment son profil a évolué, comment une mission, par exemple, ok, telle mission, ça a été connecté, ça a été facturé. Par quelle étape il est passé? On a déjà connecté. Est-ce que quelqu'un s'est désisté? On a reconnecté à quelqu'un d'autre.
D'accord, d'accord.
C'est des informations qui sont essentielles derrière pour pouvoir, bah, quand on fait de l'algorithme, quand on essaie d'avoir un algorithme matching comme tu disais et tout, c'est des infos qui vont pouvoir apporter de la valeur aussi.
Ouais, quand tu fais de la business intelligence et que tu veux.
Okay. Par exemple, un business, on leur dit, OK, il y a tel sales qui a signé, qui est en dehors de ce business, mais est-ce qu'il y a un mois, c'était le même sales? Est-ce qu'on a un mois d'activation du business, c'est le même mars?
OK, cool.
Donc, on essaie de construire notre plateforme. On essaie aussi d'emmener les données de tous nos SaaS sur le même outil pour pouvoir faire des analyses croisées. Donc, ça inclut, par exemple, HubSpot pour les sales, pour l'achat, ça inclut Amplitude, ça inclut des outils de tracking utilisateur, dans la notification et tout. Même l'activation, mais en fait, d'avoir un environnement global de, OK, qu'est-ce qui se passe avec nos données? Est-ce qu'on peut pouvoir en tirer des enseignes plus complets?
OK, donc ça, c'est un gros morceau parce que pour le coup, interfacer plein d'outils différents avec un mode de fonctionnement spécifique dans un environnement qui reste à définir et qui n'est pas encore clair de ce que je comprends, ça devait être un vrai enjeu. Et finalement, vous y arrivez.
Yes.
Au bout de combien de temps?
On fait toujours le même pari que depuis le début. OK, on va mettre une ou deux personnes. On va pas aller recruter forcément en externe. On va essayer d'apprendre en main. Et on va essayer, en fait, d'aller très très vite. On va faire une confiance à la tête. En 3 mois, 4 mois, Léon, il a construit la première version de la data platform. L'objectif, c'est de avoir compté en gestion. On a fait pas mal confiance à des techniques open source, par exemple Airbyte, donc la partie en gestion. On va utiliser Sharptail, par exemple, pour les analyses des données. Ça, on va migrer derrière un preset. C'est une base qu'on a par NMI pour faire la datavisualisation.
OK.
Et au milieu, on va mettre une nouvelle team de Netanic, slash Data Warehouse, qui est assez moderne à ce moment-là, qui commence à bosser aux US, qui est Databox.
Okay.
Historiquement, les outils de data lake, c'est des choses qui appartiennent par exemple à Google ou Amazon. Là, on fait quoi? La première fois, le pari de sortir de chez AWS, d'aller chercher quelque chose un peu plus propriétaire, qui est une boîte qui est vraiment focus là-dessus. Et en vrai, dès le départ, on a vraiment, c'est très très quali, ça va très vite. Même on arrive à avoir, avec un certain data engineer, on arrive à monter vraiment toute la data platform sur Airbnb.
Super. Et ok, donc ça c'est un énorme morceau qui aujourd'hui roule et opérationnel ou il y a encore beaucoup de taf?
Non, côté data launch, ça marche très très bien. Toute la partie en gestion, chaque fois qu'on met quelque chose en nouvelle source par exemple, c'est automatique, les données arrivent. On a forcément des problématiques de scale parce qu'on commence à avoir beaucoup de data analysts qui travaillent sur une data plateforme. Donc aujourd'hui, c'est plus une question de roadmap. Trop de projets en tête et on essaie d'avancer le plus rapidement possible sur ce projet. On a un nouveau data engineer qui va nous rejoindre en juillet, donc ça va permettre de aller mieux. Mais ouais, tout va bien. Aujourd'hui, on a peut-être un plateforme assez stylé, donc on commence un peu à faire du ML avec Genève qui nous a rejoint il y a 2 mois. Même je t'y mets donc à essayer de faire progresser nos algos, par exemple, de matching, on extend, on commence à faire du ML dessus et on commence à mieux utiliser les données.
Tu parlais tout à l'heure d'apprentissage. Comment tu grandis dans ton rôle par rapport notamment à d'autres pairs que tu peux avoir dans d'autres scale-up? Est-ce que t'es quelqu'un qui passe beaucoup de temps à lire sur des forums? C'est quoi ta manière de grandir?
Beaucoup de podcasts.
Excellent choix.
Je lis beaucoup, je lis pas toujours des livres de manuel. C'est pour ça, un podcast, ça me parlait parce que depuis 5 ans, je peux des livres tout le temps. Que ce soit des livres, que ce soit des romans, des livres de développement personnel, de la tech, c'est quelque chose que j'adore. Par exemple, quand je suis à la salle de muscu, j'ai toujours un livre à mes oreilles parce que ça me permet de me concentrer sur autre chose parce que vous soulevez des poids. Je fais beaucoup de tâches avec des gens, j'essaie de vraiment montrer d'autres CTO, j'essaie de comprendre comment ça marche chez eux. J'ai toujours cette problématique, dès qu'il y a une problématique qui arrive sur lequel, je me connais pas trop. Je vais essayer d'aller voir dans d'autres boîtes comment ça fonctionne et tout. Par exemple, là, récemment, il y avait une problématique des performances sales. Comment tu fais pour mesurer efficacement les performances des sales? Comment tu fais quand t'as une équipe de sales qui grandit et que tu arrives à 50, 60 personnes? C'est vraiment une bonne structure pour pouvoir mesurer les perfs, pour pouvoir leur amener les bons essais, que c'est très efficace. on travaille deux. Donc forcément, bah, une boîte avec beaucoup de scènes, c'est une crise d'électronique. Donc je commence à faire pas mal de code, mal de avec des gens chez eux. Pour essayer de comprendre comment ça marche chez eux, comment ils ont créé une équipe spéciale de performance scène pour essayer de les enabler. Ou simplement, d'habitude, je vais généralement aller voir d'autres boîtes, essayer de comprendre comment ça marche chez eux et tout, et ça me parle d'argent.
Cool. Et en interne, comment Brieux ou Jean te t'aident entre guillemets à grandir dans ton rôle? Là, tu commences à avoir une casquette relativement senior, même si t'es très jeune, tu commences à avoir beaucoup de responsabilités. Est-ce qu'on te laisse de l'espace pour que tu t'exprimes, ou est-ce que c'est plutôt au contraire un suivi plutôt hebdomadaire pour que les choses se passent en track? C'est quoi votre mode de fonctionnement?
Brieux me fait vraiment beaucoup de confiance. C'est ça qui coûte, c'est vraiment un problème de travailler avec lui, parce que à la fois, c'est un excellent manager, c'est un excellent prof de vie. Je crois que j'ai jamais autant appris, travailler avec des humains, interagir avec des humains et tout, comme on travaille avec Brieux, quand tu vas discuter un peu avec lui, tu vois. Donc, il m'apprend beaucoup, et à la fois, sur le côté humain, sur le côté management, parce que je commence tout juste à manager des choses, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et côté tech, il me fait full confiance. Et ça, c'est du coup, je lui explique les problématiques, je lui explique la solution sur laquelle on va partir et tout. Et c'est donc qui va me faire confiance, qui va essayer de comprendre pourquoi on fait ça et tout. Et du coup, on a énormément d'espace pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir aller très très vite, sans avoir à faire une authentique, en validation en 3 étapes et tout. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment méga enrichissant de travailler avec lui. Jean de son côté, il s'est concentré côté produit, donc ça fait confiance sur la tech. En fait, c'est quelqu'un qui a une vraie vision produit, donc c'est vraiment agréable de discuter avec lui, de voir un peu, ok, c'est quoi les next steps, où est-ce qu'il veut aller, comment il fait pour que Jean, le problématique opérationnel qu'on a aujourd'hui, avec la vision à long terme qu'il veut créer sur le produit.
Ouais, et puis l'avantage qu'il a, c'est qu'il a été côté tech, donc il a quand même il a l'origine finalement enfin les bases en tout cas de infrastructure, on va dire, de comment ça fonctionne. Donc ça doit être un vrai avantage.
C'est un vrai avantage pour pouvoir discuter avec lui. Et puis, un peu, on l'a vu, on profite de l'aide. C'est quelqu'un qui faisait de la tech, mais qui était passionné de produits, qui était passionné de problématiques d'utilisateurs, qui était passionné de business. Et du coup, moi, vu que j'ai un bel profil, on arrive très facilement à se retrouver, on arrive facilement à discuter avec la mère ensemble.
Et donc là, je lis entre les lignes que finalement tu es assez entreprenant. Est-ce que tu aimerais passer de l'autre côté de la force, monter un projet toi-même, ou c'est quoi ton si est-ce que ou est-ce que finalement tu es très bien aujourd'hui chez Brigade, tu vas pousser la boîte jusqu'à l'IPO, ou c'est quoi tes aspirations?
Aujourd'hui, je suis très très bien sur Brigade, parce que en fait, je crois dans ce programme, je crois dans la mission derrière. J'aime bien le côté où, en fait, je travaille pour vraiment changer quelque chose. Moi qui étais assez engagé politiquement, pour moi, c'est faire de la politique d'une autre manière, de façon
Ouais,
beaucoup plus
c'est
efficace.
pas faux, c'est pas faux.
Travailler pour une autre mission, pour moi, c'est faire de la politique, mais 5 fois plus efficace que si tu faisais vraiment de la politique. Donc, c'est assez intéressant. Puis, j'aime bien le côté faire ce qu'est mes équipes. C'est un vrai problème, qui moi, ça me passionne. C'est le côté délivré. Comment tu fais? On amène notre façon propre de travailler avec une toute petite équipe au début. Comment on fait pour garder les mêmes cultures? Comment on fait pour garder la même efficacité dans grandissant l'équipe? C'est des problématiques que j'ai commencé à me poser depuis déjà, quelques mois déjà, que j'ai commencé à travailler sur mon process d'amélioration, sur notre collaboration avec les autres équipes, avec notre team, mais également avec toutes les équipes opérationnelles et tout. Et du coup, j'ai envie d'aller plus loin dans cette étroite. J'ai envie de montrer comment on peut travailler à notre façon unique, tout en se donnant, tout en continuant à être efficace.
Super. Et donc, si on regarde un peu les défis, et on finira peut-être sur cette note-là, c'est quoi les 2, 3 défis d'un point de vue ingénierie auxquels tu dois faire face là dans les 24 prochains mois, même si ça paraît une éternité, mais c'est quoi les 2, 3 sujets dans lesquels tu dis, ah oui, ça va vraiment changer de la boîte de paradigme. Tu parlais de level up. Est-ce que vous avez dans le carton 2, 3 sujets hyper, hyper structurants, sachant que la base code maintenant est très, très robuste et véloce? C'est quoi qu'est-ce qui fait qu'on change de dimension?
Connexion. Je pense que nos algos, il faut qu'ils passent en autre dimension. Aujourd'hui,
La façon dont on collecte les missions, c'est du point de vue d'une mission. On part toujours du contexte d'une mission pour essayer de trouver le meilleur temps qui correspond à cette mission. En nous donnant, j'ai envie qu'on fasse du MM parce que j'ai envie qu'on fasse du pattern matching. D'un côté, on a une mission, de l'autre côté, une tableau qu'on a fait pour matcher pour trouver vraiment les couples les plus correspondants entre
OK.
les deux groupes. Ça, je pense que ça va être assez game changer parce que ça va pouvoir directement monter la valeur de l'utilisateur à proposer une diversité de missions, à contrôler le flou et à se pouvoir scale, pratique.
Donc, améliorer la qualité, c'est la qualité du staffing finalement. Et donc la
Améliorer la
rétention.
qualité du staffing, améliorer l'expérience qu'on propose tout en mettant derrière.
Ok.
Ça, c'est un gros sujet. J'ai un deuxième gros sujet qui est j'ai envie que la tech continue à avoir un impact à travers le produit. C'est généralement l'interface de la tech avec les autres équipes, c'est le produit. Historiquement, dans tous les autres mois, nous, que je me regarde, on a fait le baril il y a quelques mois déjà, il y a presque un mois. Le produit va se concentrer purement sur l'expérience utilisateur. Donc l'expérience externe, notamment dans les nouveaux business. Et la tech va directement travailler avec les autres équipes opérationnelles, identifier des projets, identifier les besoins par rapport à ça, lancer des projets de notre côté. Ça, c'est un truc que j'ai envie de continuer à scaler. Enfin, on a des project managers qui vont directement aux gens côté tech pour pouvoir lancer des projets avec la finance, avec une égale, avec le marketing, avec le sales et tout. C'est un truc sur lequel je continue à me bosser pour que, en fait, on a un roadmap qui se construit à la fois avec les produits, mais à la fois aussi avec toutes les autres équipes comme le mien.
D'accord. Et sur la partie, est-ce que tu explores tous les sujets de comment tu vois les nouvelles formes de generative AI vont permettre de soit créer du code pour te permettre d'aller plus vite, peut-être pour crafter et tester des choses, et ou améliorer du code existant, et ou imaginer des nouvelles solutions, tu vois, est-ce que
Moi, j'adore. Ouais. C'est un sujet qui me passionne pas mal parce que je crois qu'on a. Enfin, c'est la première fois où la tech, il y a vraiment un truc game changer côté tech qui s'est passé. Généralement, les gens ils sont pas mal concentrés, par exemple, sur ChatGPT parce que bah, c'était cool, c'était Samsung qui discutait avec eux. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas ChatGPT, c'est qu'on a créé une nouvelle interface de communication avec la machine.
Bien sûr.
Et avant, on avait nos souris et juste le clavier, et du coup, c'était le seul moyen de pouvoir communiquer avec un ordi et tout dire. De lui exprimer nos intentions. Maintenant, la machine comprend directement nos intentions et il arrive à précisément répondre à ça. Donc pour moi, c'est une nouvelle interface. Par exemple, je pense que bah, Boss Brigade, au Chambat, ça sent clairement lié à ça. Par exemple, il y a un truc que j'arriverai à faire, c'est, bah, okay, aujourd'hui, pour que autant d'être avec, t'as beaucoup de données dedans, si tu veux, par exemple, bah, comprendre, okay, c'est quoi le chiffre d'affaires de tel utilisateur sur les 3 derniers mois, t'as été obligé de transformer ton intention en query SQL.
Ouais.
Du coup, savoir faire des SQL, connaître exactement la structure des data, les colonnes qu'il faut aller chercher, comment les calculer et tout, pour avoir le résultat, pour avoir la réponse à ta question. Pour moi, en fait, enfin, avec cette nouvelle façon de générer, enfin, des modèles génératifs, faut que, tout simplement, tu exprimes ton besoin, ça quoi, il est censé être capable de comprendre, de le contextualiser par rapport au data, par rapport à sa générale, d'afficher directement. Okay. Du coup, pour moi, c'est vraiment l'avenir parce que, tu donnes, enfin, comme on disait, le meilleur interface, c'est quand il n'y a pas d'interface. Là, on est arrivé à ce stade, on n'a plus besoin d'interface pour dire la machine va faire. Et
Ouais.
c'est pour nous dans
Même le prompt de search de Google est trop compliqué, quoi. Finalement, il y a déjà trop de. Donc, directement poser ta question et avoir la réponse, c'est assez incroyable. Et même quand tu tires le trait, toi, tu parlais finalement d'une query business, mais tu pourrais très bien dire, oh, voilà, j'aurais besoin d'une interface web qui me permette de, tu vois, qui me permette de gérer un tableau de bord de ma performance people. Génère-moi tout ça. Enfin, tu peux très bien.
En fait, je parlais très bien. Moi, ce que j'aime bien, à terme, ça devrait être, par exemple, enfin, OK, aujourd'hui, on a AirCall, on a un module qui permet d'écouter et de comprendre le contexte d'un call. Bah, très bien, un sales qui est en train de parler avec un business et que le business, il dit, ouais, sur les 3 derniers mois, j'ai eu trop d'annulations de mission. Bah, au même moment, ça nous met directement, j'ai même un graphe qui montre que c'est pas le cas. Enfin, il y a qui comprend le
Ah
contexte, il
oui.
voit le business. Il sait générer le graphe, montrer au sales pour que le sales ait des arguments pour dire, pardon, moi je regarde votre taux d'annulation, il est resté assez stable, ça doit rentrer dans le, enfin, dans notre quotidien, en fait, dans nos usages quotidiens.
Ouais. Non, c'est vrai que empowerer les métiers, parce que je pense que ça a toujours été finalement la root cause même de l'informatique, ça a toujours été une manière efficace de faire tout ce qu'on fait, quoi. D'être efficient le plus possible. Bah, en fait, on va dans cette même dynamique, en fait. Il y a aucune raison que ça s'arrête, voire au contraire que ça va s'accélérer. Et donc, ton métier, les métiers de l'informatique vont forcément évoluer. Toi, ça te fait flipper? Tu trouves ça pour c'est une opportunité?
Franchement, j'adore. Je suis pas fait une partie directe de la culture de Mayotte. Quand tu commences une boîte à 6, où il y a les deux cofondeurs et 4 personnes qui sont de la tech, automatiquement, ça crée dans mon boîte cette culture de, ok, si jamais on a un problème, on va voir la tech, on va trouver une solution. Ça a toujours créé cette culture. On a essayé de conserver cette culture. Maintenant, pour moi, ce nouveau modèle, c'est vraiment, l'incarnation de cette culture. Les gens, ils ont un problème pour régler ce problème-là, pour rentrer dans leur vie et apporter des solutions avec la tech.
Trop cool. Merci Grisha. Je pense que ça donne une vue assez incroyable de comment t'as grandi chez Brigade. Et puis surtout, en fait, toutes les casquettes que tu as pu avoir, parce que finalement, tu as été instrumental dans la réussite, finalement, de quelques points de passage structurants. J'espère que tu vas continuer à grandir avec la boîte sur peut-être des enjeux aussi internationaux, parce qu'en fait, il y a des nouveaux marchés à aller chercher. Et puis, j'ai hâte de voir comment tu vas utiliser la partie machine learning sur plein de métiers. Pour aller encore plus loin.
Passionnant. Merci beaucoup.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao.